Chapitre 11. La poupée sanglante. C'est sous ce titre, La poupée sanglante, que le lendemain matin, le journal L'Époque publiait en première colonne un article qui produisit d'abord un effet de stupeur sur tous les lecteurs de cet organe, lequel passait généralement pour sérieux et dont les informations étaient reproduites dans la presse du monde entier. Ce titre était accompagné de sous-titres sensationnels qui annonçaient un événement inouï, invraisemblable, dépassant tout ce que l'imagination la plus folle était capable d'inventer dans le domaine de la science et du crime, double abîme insondable. En même temps, dans un chapeau, le journal prenait des précautions, mettait ses lecteurs en garde contre les surprises de la première heure, leur conseillait d'attendre que les services de la grande presse eussent eu le temps de contrôler les faits avant de les juger. Quant à lui, il remplissait un office qui était pour le moment de pure information. Il se bornait à narrer dans tous les détails les événements qui s'étaient produits la veille dans le cabinet du directeur de la Sûreté Générale, les conversations qui s'y étaient tenues, les déclarations qui y avaient été faites, et cela d'une façon si précise que le rouleau ou le disque d'un phonographe n'eussent pas été plus fidèles. De telle sorte que, du commencement à la fin, les lecteurs passaient par les émotions si diverses que nous avons vues agiter ce pauvre monsieur Bessières et restaient, comme lui, complètement abasourdis. L'article même, qui n'était en somme qu'un rapport, était signé 3X, est suivi d'une seconde note de la rédaction, NDLR, où celle-ci, inquiète de l'effet produit, se livrait à des considérations générales qui tendaient à faire entendre que nous vivons dans un temps de miracle où il ne faut s'étonner de rien et où l'on a vu les rêves les plus extravagants des poètes et des romanciers se réaliser. Dans ce support qui, disait le journal, nous a été communiqué à une heure trop avancée de la nuit pour que nous ayons pu commencer notre enquête, nous n'eussions peut-être vu qu'un conte des plus ingénieux et renouvelés de Henry Heine, si les mains de qui nous les tenons, et aussi ce qui s'est passé dans la nuit rue des Saussets, ne nous avaient déterminé à le publier en tête de nos articles de reportage, tout en faisant nos réserves. Quant à ceux de nos lecteurs qui pencheraient pour la littérature quand même et qui eussent préféré voir figurer cette incroyable histoire à la rubrique « 1000 nouvelles nouvelles », ils n'y perdront rien. Et voici ici même l'imagination de l'auteur des Reichsbilder. On ne peut faire mieux dans le genre sur le papier. Ils y trouveront plus d'un point de contact avec l'effarant automate de la rue du Saint-Sacrement en Lille. On raconte, a écrit Henry Heine, qu'un mécanicien anglais, qui avait déjà inventé les machines les plus ingénieuses, s'avisa à la fin de fabriquer un homme et qu'il y avait réussi. L'œuvre de ses mains pouvait fonctionner et agir comme un homme. Il portait dans sa poitrine de cuir une espèce d'appareil humain. Il pouvait communiquer en son articulé ses émotions. La poupée sanglante, elle, ne parle pas, mais elle écrit, et avec du sang. Et le bruit intérieur des rouages, ressorts et échappements qu'on entendait alors, produisait une véritable prononciation. Enfin, cet automate était un gentleman accompli, et pour en faire tout à fait un homme, il ne lui manquait qu'une arme. Mais cette arme, son créateur ne pouvait la lui donner, et la pauvre créature, arrivée à la conscience de son imperfection, tourmentait jour et nuit son créateur en le suppliant de lui donner une âme. Cette prière, qui devenait chaque jour plus pressante, finit par devenir tellement insupportable au pauvre artiste qu'il prit la fuite pour se dérober à son chef-d'œuvre. Mais la machine-homme prend tout de suite la piste, le poursuit sur tout le continent, ne cesse de courir à ses trousses, l'attrape quelquefois et grogne à ses oreilles « Give me a soul, donnez-moi une âme. » Tel est le conte de Henry Heine, continuait la note de la rédaction. Monsieur Jacques Cotentin, prosecteur à l'école de médecine à Paris, nous donnons tous les noms pour que dans cette prodigieuse histoire, chacun soit obligé de prendre ses responsabilités et que, s'il y a autre chose qu'un conte, on ne puisse nous soupçonner d'avoir servi les intérêts de quiconque a été mêlé de près ou de loin au très inquiétant procès de Bénédicte Masson. Monsieur Jacques Cotentin, qui, lui, aurait donné en même temps qu'un cerveau une âme à sa poupée, oh, et quelle âme, n'est point poursuivi par son automate. C'est lui qui le poursuit. L'a-t-il rejoint ? Après avoir retrouvé les vêtements ensanglantés de sa fiancée, a-t-il pu enfin arrêter cette machine à assassiner qu'il aurait lancée sur le monde ? Voilà ce qu'on se demandait cette nuit encore autour de M. Bessières. Nous pouvons affirmer encore une chose, c'est qu'on ne traite plus cette affaire comme un conte rue des Saussets, et qu'au moment où nous mettons sous presse, on se demande si le prosecteur n'aurait pas été victime lui aussi de son invention. En effet, lors de la lugubre petite maison de Corbière où l'horloger Norbert a vu Jacques Cotentin pour la dernière fois, on n'a plus retrouvé trace du prosecteur, pas plus que des premières victimes de Bénédicte Masson, pas plus que de Christine Norbert, pas plus que de la poupée sanglante elle-même. Chapitre 12. La capitale s'agite. Le matin où parut cet article était un dimanche. Quel dimanche pour les habitants de l'île Saint-Louis! Ce fut une invasion de barbares. En vérité, on n'avait pas vu une pareille ruée sur ses rives depuis le siège de la cité par les Northmans. C'est peut-être remonté un peu loin, mais où et comment trouver des termes de comparaison? Le populaire, dès 11 heures, faisait le siège de la rue du Saint-Sacrement, secouait lui de l'horloger, envahissait le magasin de M. Birouste, donnait l'assaut à la boutique de Mlle Baresca. C'est qu'il faut dire que Paris, dans les premières heures de la matinée, avait été inondé d'éditions spéciales. Tout d'abord, le premier mouvement de stupeur passé, on n'avait pas pu se regarder sans rire. On avait cru ou on avait affecté de croire à quelque formidable canard, à une nouvelle forme du serpent de mer. Et puis, à 9 heures, l'Époque lançait sa seconde édition, dans laquelle elle mettait nettement en avant les services de la Sûreté Générale, au grand désespoir de M. Bessières, du reste, qui se demandait avec rage quel était le traître qui avait pu si bien renseigner un journal qui lui avait été souvent hostile sur ses transes de la veille et la nécessité où il était maintenant de procéder pour cette affaire fantastique dans les formes employées pour les enquêtes ordinaires. Il soupçonnait fort M. l'avocat général Gassier, qui avait tout intérêt à déchaîner un scandale qui donnait raison en somme à la justice. Le parquet avait dû faire marcher le marguillier et même l'horloger. Il eût été plus logique de soupçonner l'émissaire, mais l'émissaire n'aurait jamais causé d'ennuis à la police. Au contraire, il avait toujours pris tous les ennuis pour lui. Il n'y avait aucune raison pour qu'il changeât ses habitudes. Tout est que les indiscrétions ne se retirent plus. Dans cette exceptionnelle édition de 9 heures, l'Époque publia toute l'enquête menée dans l'après-midi de la veille par les soins du commissaire de la Sûreté Générale dans les bureaux du commissaire du quartier, c'est-à-dire qu'elle reproduisit les récits de Mlle Baresca, de Mme Langlois, de Mme Camus, de M. l'herboriste Birouste, tels que nous les avons donnés au moment où l'événement se produisit et sur lequel nous ne reviendrons pas, et aussi l'extraordinaire récit de M. Lavieuville. En plus, un reporter de l'époque avait déjà eu le temps d'aller à Pontoise interviewer M. Flotard, qui lui raconta comment son couteau neuf de Châtellerault était entré dans ce mannequin vivant comme dans une peau de tambour. Un petit fête-diversier avait retrouvé le garage où la poupée sanglante s'était arrêtée. Le chef des informations était allé lui-même à Corbière, avait visité le pavillon, avait interviewé Madame Muche de l'Arbre Vert, qui n'était au courant de rien, et à laquelle il révéla que son pensionnaire n'était ni plus ni moins qu'un automate assassin qui avait hérité du cerveau de Bénédicte Masson, ce qui avait fait rire la brave dame, laquelle, comme nous le savons, riait de tout depuis la mort de son mari, M. Muche. À 10h, une nouvelle édition spéciale publiait une interview de Baptiste, le garçon d'amphithéâtre, qui travaillait pour Jacques Cotentin. Baptiste ne faisait aucune difficulté pour reconnaître qu'il avait bien rapporté la tête de Bénédicte Masson à la rue du Saint-Sacrement. Tous ces faits, si ahurissants fussent-ils, concordaient tellement que l'on cessa de rire, d'autant que toute la presse en même temps se mit à donner. Et ce fut une débauche de papier et d'éditions de plus en plus spéciales, avec des titres qui donnaient le vertige, comme celui-ci: « Prenez garde à la machine à assassiner le monde ». Enfin, il y avait une chose que l'on ne pouvait nier, c'est que la police prenait l'affaire au sérieux. On interrogeait déjà les victimes de la poupée sanglante. On recherchait les autres. Et toute la brigade des inspecteurs de la sûreté était à ses trousses. Conclusion, allons faire un tour du côté de l'île Saint-Louis. Si les cavaliers de la garde républicaine n'étaient soudain apparus, faisant circuler la foule au-delà des ponts, sur les deux rives, si les brigades centrales n'avaient établi de sérieux barrages, on ne peut prévoir les excès que l'on aurait eu à déplorer. M. Lavieuville, M. Birousse, Mlle Baresca, Mme Camus, Mme Langlois s'étaient réfugiés dans le clocher de l'église. Quant à l'horloger, on que ne le vit. On sut depuis qu'il se trouvait alors caché chez un célèbre praticien, professeur à la faculté, qui avait toujours montré beaucoup d'amitié pour Jacques Cotentin. M. Thuillier, l'un des esprits les plus ouverts de l'école, le chef de ceux qu'on appelait alors les jeunes, lesquels étaient en guerre ouverte avec leur doyen, M. le professeur Dite, l'une des vieilles gloires de l'Institut. Tout l'après-midi vit encore accourir du côté de l'île Saint-Louis les foules endimanchées. Il y eut ripaille dans tous les cabarets, de la Bastille à la place de l'Hôtel de Ville, de la Halle au Vin à la place Saint-Michel. Pour bien comprendre l'étendue et la spontanéité du mouvement, il ne faut pas oublier que cette bombe de la poupée sanglante éclatait dans un terrain tout prêt à prendre feu et flamme. On ne parlait plus à Paris que des derniers crimes de Corbière. L'innocence de Bénédicte Masson, ou sa culpabilité, donnait déjà lieu aux discussions les plus ardentes. La poupée sanglante était-elle, pouvait-elle être une solution de la question ? À 6h du soir, une dernière édition de l'époque vint apporter un élément nouveau à la vive curiosité de la foule. Pour la première fois, la voix de la science se faisait entendre, et quelle voix ! Celle du professeur Thuillier lui-même. Chapitre 13. Ce que dit le professeur Thuillier. Le reporter de l'époque avait trouvé chez lui l'illustre praticien entouré d'un véritable aréopage qui certainement s'était réuni dans son cabinet pour y discuter de la seule question à l'ordre du jour, celle de la poupée sanglante. Le journaliste fut présenté au docteur Pinet, Terrière, Gaillard, Huron et Pasquette, tous des amis et des admirateurs de Jacques Cotentin, et tous plus ou moins au courant de ses travaux. Voici, en résumé, quelles furent les déclarations du professeur Thuillier. Il est malheureux que, dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons, nous ne puissions entendre Jacques Cotentin lui-même. Nous saurions tout de suite à quoi nous en tenir, et nous n'ignorerons rien de cette fameuse poupée qui commence, je le vois bien, à faire délirer tout Paris. À défaut de notre prosecteur, j'ai pu m'entretenir longuement avec le vieux Norbert, qui est dans sa partie lui aussi un savant, c'est-à-dire doué de l'esprit scientifique. J'ai aussi interrogé un garçon d'amphithéâtre nommé Baptiste, qui est moins stupide qu'il n'en a l'air. Si nous avions pu mettre la main sur le cahier où Jacques Cotentin relatait au jour le jour ses travaux, et qui contient par conséquent tout le mystère de son automate vivant, nous n'aurions plus qu'à nous taire. L'œuvre elle-même se défendrait. Mais nous n'avons ni le cahier que Jacques porte toujours sur lui, ni Jacques, ni l'automate, enfin, du moins pour le moment. Et alors voici que, toutes ces réserves faites, je puis vous dire, après avoir interrogé les deux personnages en question qui ont été mêlés à ces travaux, après avoir visité moi-même le laboratoire d'où la poupée est sortie, les appareils qui ont servi à la créer, l'atelier où elle a pris forme humaine, et aussi après avoir pu recueillir quelques documents épars sur lesquels, dans sa hâte des derniers moments qui ont précédé chez la poupée le phénomène de la vie, le prosecteur avait jeté quelques idées ou plutôt quelques impressions. Je suis heureux de faire ces déclarations à la presse devant mes éminents confrères qui sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire dans un état d'esprit purement scientifique, veuillez le croire, ce qui ne nous empêche pas de considérer l'événement, ou mieux, la possibilité de l'événement, car au point où en est restée notre enquête, on ne saurait nous demander autre chose, avec une extase mêlée d'une certaine angoisse, et même d'épouvante, interrompit assez brusquement le docteur Ferrière. Il est certain qu'il eût pu choisir un autre cerveau que celui-là, fit entendre le docteur Huron. Messieurs, restons dans le domaine scientifique, pria le docteur Pinet de sa petite voix sèche et métallique. Messieurs, commença le docteur Guérard, il n'est point mauvais qu'un représentant de la presse voit non seulement en nous des savants, mais encore des hommes susceptibles d'émotion en face du malheur public. Puis soudain, tous se turent un peu honteux d'avoir interrompu leur maître, lequel ne disait plus rien. Ce fut au tour du reporter. « Oh, mon cher maître, je vous en prie, Paris, la France, le monde vous écoute. » Monsieur le journaliste, ce que j'ai à dire est si grave, si exceptionnel, et déterminera contre nous une telle levée de bouclier, ou si vous le préférez, de lancette, qu'il faut pardonner à mes chers confrères un peu d'agitation. Et maintenant revenons à Jacques Cotentin, qui est l'un des plus hauts esprits que je connaisse. Au point de vue scientifique, c'est l'idée de conservation universelle qu'il a toujours dirigée, autrement dit c'est l'espoir tenace de trouver le mouvement perpétuel, non sous la forme naïve de création d'énergie de toute pièce, mais comme l'a énoncé Bernard Brune, sans y croire, sous la forme la plus raffinée de restauration de l'énergie utile qui a inspiré ses premiers travaux de laboratoire. Dans le moment où il allait trouver en défaut le principe de la dégradation de l'énergie, il fut frappé de certains résultats obtenus outre-Atlantique par un mode de traiter les tissus qui semblait devoir les conserver quasi indéfiniment. C'est alors que lui vint l'idée, puisqu'il n'avait pu vaincre la mort dans le général, d'essayer d'en triompher dans le particulier. Il n'avait pu encore créer la vie, il essaierait, avec des tissus arrachés à la mort, de créer un être vivant, un homme, et même un surhomme. Ce rêve où se réfugiait maintenant toute l'ardeur de son génie, peut-être ne l'eût-il point conçu s'il n'avait eu à ses côtés ce vieil horloger qui lui aussi poursuivait la même idée dans le domaine mécanique. Dans ce temps, le bonhomme Norbert était arrivé à fabriquer, aidé de sa fille, un automate qui était déjà une merveille et auquel il était parvenu à donner une allure tellement humaine, un mouvement si naturel, que certains qui l'ont vu s'y sont trompés et ont cru avoir affaire à un véritable personnage. Comme ce personnage était sorti des mains de Mademoiselle Norbert, beau comme un ange, c'est le vieil horloger qui parle. Celle-ci l'avait baptisé Gabriel. Mais ce n'est qu'un automate, une pièce mécanique en somme. Dans le genre, on a déjà fait des chefs-d'œuvre. Si nous laissons de côté l'Antiquité et des fables que nul n'a contrôlées, nous arriverons avec le XVIIIe siècle aux premiers automates réellement authentiques. Descartes avait construit un automate auquel il avait donné la figure d'une jeune fille et qu'il appelait sa fille Francine. Dans un voyage sur mer, le capitaine eut la curiosité d'ouvrir la caisse dans laquelle Francine était enfermée. Mais, surpris du mouvement de cette machine qui se remuait comme si elle eût été animée, il la jeta par-dessus bord, craignant que ce ne fût un instrument de magie. Rivarol rapporte, dans les notes de son discours de l'université de la langue française, que l'abbé Mical construisit deux têtes d'airain qui prononçaient nettement des phrases entières. Le gouvernement n'ayant pas voulu les lui acheter, le malheureux artiste, criblé de dettes, les brisa et mourut dans l'indigence en 1786. Nous avons eu ensuite les trois automates dus au génie de Vaucanson, qui en publia une description sommaire dans le courant de 1738 et qui excitèrent au plus haut point l'admiration publique. C'était un joueur de flûte, un joueur de tambourin et un canard artificiel. Je n'entrerai point dans le détail du mouvement intérieur qui faisait agir ces poupées de grandeur naturelle par l'intermédiaire de ressorts d'acier, de petites chaînes et de renvois, de soupapes et de leviers, merveilles qui furent soumises à ces messieurs de l'Académie des sciences qui ne purent que s'incliner devant le génie de l'inventeur. Vaucanson construisit encore une veilleuse vielleuse qui fait partie des collections du Conservatoire des Arts et Métiers. À la fin du dernier siècle, Frédéric de Knaus exposa à Vienne un androïde écrivain qui existe toujours. Je pourrais encore vous citer d'autres exemples plus récents, mais je m'arrête ici. C'est assez pour vous faire comprendre jusqu'où l'art de la mécanique peut aller quand elle se donne pour but d'imiter le mouvement humain. Mais pour les faire agir, il fallait remonter ces machines. Le coup de génie du vieux Norbert a été de faire intervenir l'électricité de manière que pour diriger son automate, il n'était besoin que de lui parler. Imaginez qu'il avait disposé dans la conque de chaque oreille de Gabriel une sorte de pellicule très sensible, garnie en son centre d'une aiguille qui venait prendre contact avec un appareil électrique, lequel déterminait tel ou tel mouvement selon que l'aiguille prolongeait plus ou moins le contact, c'est-à-dire selon qu'en parlant à l'automate plus ou moins fort ou plus ou moins longtemps, suivant qu'on lui adressait certains mots ou certaines phrases, à l'oreille gauche ou à l'oreille droite. En somme, quand on parlait à Gabriel, on lui téléphonait et Gabriel obéissait. Et si perfectionné que fût déjà son automate, le bonhomme Norbert était loin d'en être satisfait. Quant à sa fille, elle en était un peu folle. C'est elle qui lui avait donné ses belles formes, son radieux visage. C'est elle qui avait habillé cette poupée avec une coquetterie toute romantique. Elle l'aimait un peu comme une mère et aussi comme une amante. Cette figure idéale, elle l'adorait comme on aime son rêve. Le malheur fut qu'elle s'amusait trop avec cette mécanique comme une petite fille avec sa poupée. Le vieux Norbert s'aperçut un jour qu'il y avait quelque chose de détraqué dans son automate et à cause de sa fille. Celle-ci lui promit de n'y plus toucher que devant lui. Mais cette promesse, elle ne l'atteint pas, et un soir que l'horloger, ne comprenant plus rien à la vanité de ses efforts et poursuivi par l'insomnie, monta dans l'atelier de sa fille, il se trouva nez à nez avec Christine qui tenait Gabriel dans ses bras comme un enfant malade. « Ah, je comprends pourquoi il ne m'obéissait plus !» s'écria-t-il. Et dans une de ces crises de désespoir que seuls connaissent les inventeurs, il brisa, il broya l'œuvre de sa vie. « Sa fille était comme folle, m'a raconté le vieux Norbert. Elle implorait son père pour Gabriel, comme elle put le faire pour un être humain. « Ne le tue pas, ne le tue pas !» lui criait-elle. Mais déjà, Gabriel n'était plus qu'un cadavre d'automate. C'est sur ces entrefaites que Jacques Cotentin survint et décida, pour calmer sa cousine et son oncle, lequel regrettait déjà son geste assassin, que Gabriel revivrait, non plus comme une simple mécanique qui n'obéit qu'à des ressorts, mais comme un homme. Depuis quelque temps, du reste, il en nourrissait la pensée. Les travaux auxquels ces deux génies durent se livrer pour réaliser leur création dans l'union de l'art mécanique et de la science physiologique dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Mais rien ne les rebutait. Jacques, du reste, était soutenu par les résultats merveilleux obtenus par des chercheurs dont le but était plus restreint, mais qui tout de même, sans le savoir, travaillaient pour lui. La vie est un mystère duquel il ne faut jamais désespérer. On croit qu'elle nous a fui pour toujours, quand elle est encore entre nos mains. Le 10 septembre de l'année dernière, le docteur Bedford Russell, par des massages directs sur le cœur d'un individu mort depuis plusieurs jours, a pu rappeler à la vie un jeune homme qui venait de succomber à une angine infectieuse. Pour y arriver, le chirurgien a dû faire une profonde incision au-dessus du cœur du malade et se livrer pendant plusieurs heures avec ses mains à un massage ininterrompu sur les ventricules mis à nu. Voici ce que l'on peut faire avec un cœur. Alors pourquoi douter d'un cerveau à qui l'on redonne la circulation vasculaire, c'est-à-dire la vie? Mais, mon cher maître, interrompit le journaliste, comment Jacques Cotentin a-t-il pu, justement, donner à un automate cette circulation nécessaire, et comment le cerveau agit-il sur l'automate? Monsieur, voici le système tel que j'ai pu le comprendre d'après mon enquête, forcément restreinte, et les dires de l'horloger. Le cerveau n'a été que le couronnement de l'œuvre. En somme, quand le cerveau est arrivé, tout était prêt. Les pièces de l'automate étaient revêtues de nerfs nécessaires à la transmission du mouvement, la colonne vertébrale artificielle dont j'ai pu recueillir quelques restes d'apophyse était garnie de sa moelle, tout préparée et entretenue dans le sérum Rockefeller lui-même. Un système de mèches ouatait, si j'ose dire, la partie physiologique de l'automate et se glissait dans la région sous-cutanée. La peau aussi était artificielle, et autant que j'ai pu m'en rendre compte et en étudiant les résidus faits d'une espèce de parchemin velouté, d'une grande souplesse et d'une grande douceur. Toutes ces mèches étaient humectées par le sérum Rockefeller, conservant la vie au tissu et entretenant sous cette peau veloutée une température toujours égale. Et là, nous touchons au problème de la circulation. Et voici comment Jacques Cotentin l'aurait résolu. La circulation du sérum serait établie par le truchement d'un siphon. Enfin, ce sérum passerait par une tubulure glissée dans une résistance. Vous savez ce qu'en électricité on appelle la résistance, maintenue à une température constante de 37 degrés par un interrupteur. Le nettoyage du sérum en circulation se ferait mécaniquement par un barbotage qui rappellerait le barbotage avec parla chaud. C'est simple, monsieur, et c'est formidable, comme le génie. Et quand je vous aurais dit que le sérum Rockefeller fut soumis par nos inventeurs à un traitement particulier par le radium, ou mieux par des résidus de radium, cause de ruine pour les malheureux qui durent donner leurs derniers 50 000 francs pour 50 mg de bavure de radium, et que l'automate dispose ainsi d'une force surhumaine, que cet automate voit et entend, comme vous et moi, mais qu'il ne parle pas, les inventeurs ayant renoncé momentanément à le doter d'une voix qui l'aurait peut-être rendu ridicule, je vous aurais tout dit de ce que je peux savoir, entrevoir ou deviner, jusqu'à ce que nous ayons entre les mains l'œuvre ou le cahier de travail de Jacques Cotentin, il serait oiseux ou dangereux d'en dire davantage. Sur quoi, le professeur Thuillier se leva. « Encore un mot, » pria le reporter. « Comment expliquez-vous que Jacques Cotentin ait justement choisi le cerveau de Bénédicte Masson ?» Il ne l'a pas choisi, monsieur. Le cerveau de Bénédicte Masson est arrivé au moment psychologique. On m'a dit que notre prosecteur croyait à l'innocence du relieur. Je ne crois pas que ce soit cette manière de voir qui l'ait déterminé. Je pense, tout simplement, qu'il s'est servi de ce cerveau parce qu'il l'a jugé parfaitement à point, sans tare, sans maladie, nullement épuisé comme la plupart des cerveaux qu'il pourrait trouver sur les tables de travaux pratiques. Enfin, un dernier détail. Bénédicte Masson était mort bravement, la tête lancée en avant, et le couteau avait respecté le bulbe, ce qui rendait l'opération infiniment plus facile quand il s'est agi de procéder à la réunion des différentes parties physiologiques du personnage et à la suture des nerfs. Je prie mes confrères de m'excuser si je parle ici une langue volontairement simple et même vulgaire, mais je tiendrai à être compris de tous, au moins grosso modo. En somme, monsieur le professeur, reprit le journaliste qui ne demandait plus maintenant qu'à s'en aller, en somme, la poupée sanglante existe. En tout cas, il est possible qu'elle existe, oui. C'est votre conclusion ? Parfaitement. Et c'est la conclusion aussi de ces messieurs ? Tous inclinèrent la tête. Le reporter remercia le célèbre praticien et se dirigea vers la porte accompagné du docteur Pasquette. « Vous n'avez rien dit, vous, monsieur, lui fit le reporter. En votre âme et conscience, que pensez-vous ? « Oh, mon âme et conscience, je pense que c'est rigolo, » répliqua le docteur Pasquette. « Vous ne croyez pas que c'est possible ? « Oh, je crois que c'est possible, mais en mon âme et conscience, permettez-moi de vous dire que c'est rigolo. »« C'est épouvantable !» s'écria le reporter. « Mais, monsieur le journaliste, nous sommes d'accord. » C'est épouvantablement rigolo. Chapitre 14. Paris pique. On conçoit l'effet produit par les déclarations d'une aussi haute personnalité. La plupart de ceux qui hésitaient encore, malgré les faits, à adopter l'idée de la possibilité de la poupée, durent s'incliner. L'époque tira à des centaines de milliers d'exemplaires le numéro où se trouvait l'interview du professeur Thuillier. On se l'arrachait, on la lisait tout haut dans les cafés. Les transparents des grands journaux la reproduisaient et attiraient sur les grands boulevards, malgré le froid excessif, une foule qui arrêtait toute circulation. La poupée sanglante, la poupée sanglante, on n'entendait que cela. Une machine a assassiné le monde qui courait en liberté sur les routes, dont vous pouviez être victime d'un moment à l'autre et contre laquelle il n'y avait rien à faire puisqu'elle pouvait recevoir un coup de couteau jusqu'aux manches sans être plus dérangée que si on le fait une caresse et qui était en conséquence à l'épreuve de la balle. Que n'entendait-on pas ? On aurait pu décharger sur elle une mitrailleuse. Les balles ne faisaient que la traverser sans lui donner même une démangeaison. Et quand elle s'est partie vitale, le siphon, la tubulure, la résistance, le barbotage, enfin tout le truc dont avait parlé le professeur Thuillier, vous pensez si elle devait être garantie par un sérieux blindage ? Telle la chambre des machines d'un cuirassé. Ah, ce Jacques Cotentin qui avait fait revivre Bénédicte Masson dans cet appareil de guerre méritait plus que lui l'échafaud. Voilà où en étaient les esprits quand à 10 heures du soir, une édition spéciale du Quart d'heure, journal en guerre ouverte avec l'époque, publia en réponse à l'interview du professeur Thuillier les déclarations du doyen de l'école de médecine, M. le professeur Ditt, membre de l'Institut. Elles aboutissaient sans embâge à cette conclusion « La poupée sanglante est impossible ». Alors les discussions reprirent de plus belle, avec un acharnement et une violence encore inégalées. Mais qu'est-ce qu'il en sait si elle est impossible ? S'écriait un partisan de Thuillier. Il n'a rien vu, rien entendu. Il n'a fait aucune enquête. Il n'a interrogé personne, cette vieille barbe. Il en est resté à raspaille. Le père Thiers non plus ne croyait pas au chemin de fer. Votre doyen est le dernier des imbéciles. Et votre Thuillier, monsieur, est le premier des idiots. Pan et pan et gifle bataille, verre cassé. Voilà peut-être ce que l'on a voulu, faisait entendre un pacifique vieillard dans le coin où il s'était réfugié loin de la bagarre. N'oublions pas, expliquait-il, que nous traversons une heure difficile, que l'horizon extérieur est sombre, qu'il ne nous reste plus de notre alliance avec l'Angleterre qu'un pâle souvenir, enfin, que les esprits sont inquiets. J'ai toujours remarqué dans ma déjà longue ex-carrière que lorsque les esprits sont inquiets, les gouvernements ne trouvent rien de mieux pour verser l'épouvante, pour calmer cette inquiétude par l'intervention de quelques faits divers ou procès nouveaux dont on pourrait citer 10 exemples. Je me bornerai, quant à moi, qui avait l'âge de raison au moment de la guerre de 70, à rappeler la fameuse affaire Troppmann. Messieurs, Troppmann n'a jamais existé. Troppmann n'a jamais existé, eh bien, et le champ langlois, alors? Un champ, monsieur, peut toujours exister, mais Troppmann est une invention de l'empereur, comme votre poupée sanglante est l'invention de monsieur Bessières, de la Sûreté Générale. Ah, je vous donne mon opinion, monsieur, vous n'êtes pas obligé de la partager. Vous êtes jeune encore, quand vous aurez mon âge, il y aura des choses qui vous étonneront plus. Le vieillard, qui parlait ainsi dans une brasserie du boulevard Poissonnière, et qui du reste se vit traiter de gâteux, s'appelait M. Thibault. C'était un petit rentier des Batignolles. Nous aurons l'occasion d'en reparler avant peu. Malgré tous ces témoins que nous venons de décrire, nous pouvons avancer qu'il ne s'était passé rien encore à Paris à propos de la poupée sanglante, en comparaison des événements qui s'y succédèrent les jours suivants. Ce fut comme un souffle de folie sur la capitale. On gardera longtemps le souvenir de cette semaine fantastique qui débuta par la découverte du petit pistolet chirurgical et de son trocard. Nous n'avons pas oublié que Christine, lors de son premier voyage à Corbillière, avait apporté dans son sac à main cet instrument fatal et qui s'en était échappé. Ce fut un inspecteur de la sûreté qui le découvrit entre les deux manches du perron qui conduisait chez l'homme de Corbillière le surlendemain du jour où éclata l'affaire de la poupée sanglante. Pour permettre au lecteur d'apprécier l'importance d'une telle découverte, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire ici le communiqué quasi officieux des agences. On vient de faire à Corbillière une découverte sensationnelle, c'est celle de l'instrument avec lequel Bénédicte Masson atteignait ses victimes avant de les étrangler. Il s'agit d'un petit pistolet automatique garni d'un trocard, construit sur le modèle de ceux qui servent en chirurgie et que l'on peut voir dans les vitrines des spécialistes de la rue de l'école de médecine. Ce trocard est une aiguille creuse dans laquelle l'homme de Corbillière introduisait, avant de la lancer, quelques gouttes d'une sorte de poison somnifère qui lui livrait sa victime sans défense. C'est tout ce que l'on peut dire pour le moment, et les experts chimistes ne se sont pas encore prononcés sur la nature précise du liquide employé par Bénédicte Masson. Mais voici de ce fait bien des choses expliquées. Par exemple, l'assassinat sans combat, on peut dire sans résistance, du garde-chasse, le père Violette, qui était cependant un gars autrement solide que le petit relieur de la rue du Saint-Sacrement. Ainsi se trouveraient également expliquées les singulières piqûres à la nuque ou au bras et même à la cuisse des immolés de Corbillière, piqûres dont la répétition sur chaque cadavre avait intrigué la justice sans qu'elle fût arrivée à leur donner un sens. Maintenant, on ne peut plus en douter, Bénédicte Masson piquait ses victimes à distance. Ce communiqué, qui devait avoir bientôt une répercussion foudroyante sur la population parisienne, n'apparut réellement avec toute son importance que quelques heures plus tard, quand l'Époque, dans son édition de 2 heures, reprit le texte même du communiqué pour lui donner toute sa portée judiciaire. Ce que le communiqué oublie de dire, précise l'Époque, c'est que les dernières victimes de Corbière portent elles aussi, comme le père Violette, cette mystérieuse blessure qui aurait été faite, on ne saurait plus en douter maintenant, après les expériences de la matinée, par le trocard du pistolet automatique. La poupée sanglante était donc armée du même instrument fatal que Bénédicte Masson. Voilà qui vient corroborer singulièrement l'opinion du professeur Thuillier. Le jour n'est peut-être pas loin où nous retrouverons les cadavres de Christine Norbert et du prosecteur, marqués du même sceau, de cette petite tache funeste qui signale le passage du monstre. Et maintenant, continuait l'époque, comment le pistolet à trocard se trouvait-il entre ces deux marches? De toute évidence, il a été perdu à cet endroit, sinon le redoutable Gabriel l'aurait encore sur lui. Mais il y a, hélas, une autre hypothèse qui paraît déjà aux inspecteurs de la sûreté plus vraisemblable, c'est que Bénédicte Masson possédait chez lui, dans un endroit insoupçonné, plusieurs de ses armes singulières, et que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la poupée pour continuer son œuvre de mort. Le pistolet à trocard que l'on a trouvé a pu être perdu par Bénédicte Masson lui-même avant la découverte de ses crimes, mais la poupée n'est pas désarmée. Un frisson passa sur Paris. La poupée pouvait piquer à distance et on ne pouvait plus lui résister. Voilà maintenant où menait la science, trop de science. Il y eut dans les journaux les plus graves des premiers paris où l'on déplorait le temps des diligences et des voleurs de grand chemin. Au moins, on pouvait prendre ses précautions et l'on savait ce qu'on risquait. Mais allez donc vous garer des mauvais desseins d'un monsieur qui, habillé comme vous et moi et doué d'une figure honnête, a dans la poche de son pardessus un petit pistolet à trocard. Perdu dans la foule, il vous atteindra, et vous ne saurez pas ce qui vous arrive. Vous vous dites, tiens, je me sens piqué. Vous n'y attachez pas d'importance, vous prenez le chemin du retour, vous vous sentez un peu étourdi, un inconnu s'approche de vous pour vous porter secours, vous êtes mort, dévalisé, étranglé, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait au juste ce que ce monsieur-là fait de ses victimes? On n'a pas retrouvé tous les cadavres faits par Bénédicte Masson, surtout les cadavres de femmes. Or voilà que le lendemain du jour où parurent ces articles, il se produisit un événement qui acheva de tourner les têtes. Une dame, jeune et jolie, qui était entrée dans un grand magasin des environs de l'Opéra pour acheter une paire de gants, du 6 1/4, fit entendre un cri, porta la main à sa hanche et dit dans un soupir « On m'a piqué !» Elle tourna la tête, n'aperçut que des indifférents qui passaient. Mais elle répéta avec plus de force « On m'a piqué ! On m'a piqué !» Alors on se précipita. Le chef de rayon, accompagné déjà d'une foule inquiète, conduisit la jeune dame défaillante à la porte d'un vestiaire, où elle resta enfermée avec une employée de la maison pendant quelques minutes, au bout desquelles l'employée réapparut en disant au chef de rayon « Vite un taxi !» Et cet employé avait les mains rouges. L'émotion fut considérable, il n'y eut qu'un cri « La poupée ! La poupée ! » Et chez certains, la crainte l'emporta, et ils quittèrent en hâte l'établissement. Chez les autres, la curiosité fut plus forte. Ils restèrent pour voir sortir la dame, qui était fort pâle, que l'on soutenait, que l'on mit dans un taxi, et qui fut accompagnée jusque chez elle par deux inspecteurs de la maison. un agent requis monta sur le siège. Ce fait divers relaté dans la presse du soir eut un retentissement considérable. De toute évidence, la poupée était à Paris. Il fallait bien qu'elle fût quelque part. Du moment qu'on ne la trouvait pas en province, elle s'était réfugiée dans la capitale. Oh, mais où mieux que cela eût-elle passé inaperçue? Le quart d'heure mit alors les pouvoirs publics en demeure d'arrêter la poupée, car elle existe ou elle n'existe pas. Si elle existe, arrêtez-la. Mais tout le monde maintenant était d'avis que la poupée existait. Et le terrible fut que tout le monde se fit un devoir de l'arrêter. Un nouveau communiqué des agences, affirmant que la jeune personne qui avait été piquée dans un grand magasin de la rive droite l'avait été par un accident des plus ordinaires, n'eut aucun succès. Les Parisiens avaient raison de se méfier. L'affaire devenait trop grave maintenant pour que les pouvoirs publics n'en redoutassent point les conséquences. Même si l'accident avait été moins simple que ne l'affirmait le communiqué de la Sûreté Générale, n'était-il point du devoir de M. Bessières de calmer avant tout les esprits? Mais, comme nous l'avons dit, tout fut inutile. Le lendemain, une autre belle et jeune personne d'origine polonaise, nous précisons parce que nous avons le dossier sous les yeux, qui était entrée à l'église de la Trinité pour y faire ses dévotions, se dressa soudain sur son prie-Dieu comme galvanisée. Elle aussi venait d'être piquée. Elle poussa un cri d'effroi et de douleur qui attira le bedeau, cependant qu'une porte à tambour qui se trouvait tout près d'elle retentissait comme se refermant sur la fuite de l'auteur de l'attentat. Le bedeau, n'écoutant que son courage, se précipitait déjà quand la jeune personne d'origine polonaise le supplia de ne point la quitter. « Je sens que je m'endors, » gémissait-elle. Il la reçut dans ses bras. C'est dans cette pause qu'il fut surpris par le premier vicaire, auquel il fallut naturellement donner des explications. Tous deux conduisirent la dame à la sacristie, et la police fut prévenue par téléphone. Le premier mot du commissaire fut de recommander le silence, mais une téléphoniste qui avait surpris la conversation n'eut rien de plus pressé que de raconter l'histoire par téléphone à ses amis et connaissances. Quelques heures plus tard, tout Paris la connaissait. La poupée ne respectait rien ni personne et elle était partout. Après les grands magasins, les églises, après les églises, les tramways et autobus. Ce soir même, à 5 heures, Madame Sarah Tricoche, confectionneuse en chaussures, demeurant à Saint-Maur, avait pris place à l'arrêt près de l'église de Belleville, en compagnie de son garçonnet, au style des faits divers, dans un autobus Saint-Fargeau-Louvre, se dirigeant vers la porte Saint-Denis. Elle s'était assise sur une banquette de première classe, du premier rang à l'avant et à gauche, et avait installé son fils près d'elle, et sur la banquette, vis-à-vis, se tenait un seul voyageur, un monsieur correctement vêtu. Soudain, comme Madame Tricoche se baissait pour installer sous la banquette un paquet de marchandises qu'elle allait livrer, elle sentit près du poignet une violente douleur. Sans perdre son sang-froid, saisissant la main du voyageur d'en face, qui s'était baissée en même temps qu'elle, Madame Tricoche s'écriait « Vous m'avez piqué !» Et la voyageuse montrait à l'appui de son dire une petite blessure noirâtre qui apparaissait sur sa main. Le cri de la voyageuse avait, comme bien l'on pense, provoqué une violente émotion parmi les occupants de l'autobus. L'homme qui avait violemment dégagé sa main de l'étreinte protestait hautement de son innocence, cependant que plusieurs voyageurs, parmi lesquels un agent civil, l'entouraient et l'appréhendaient. Immédiatement fouillé, celui qu'on accusait ainsi ne fut trouvé porteur d'aucun instrument piquant, et les recherches opérées aussitôt sur la banquette et le plancher de l'autobus ne firent rien découvrir de suspect. Cependant, la plaie que portait la victime attestait d'une façon formelle qu'elle avait reçu une piqûre. C'est alors qu'un autre voyageur déclara avoir aperçu quelques instants auparavant sur la plateforme un individu d'aspect singulier dont le col du pardessus était relevé sur un visage aussi impassible et aussi dur que celui d'une statue. Enfin, cet individu semblait avoir la main refermée sur un instrument d'acier. Oh, il n'en fallait pas tant. « C'est la poupée sanglante, c'est la poupée sanglante !» s'écrièrent 20 voix. « Et où est-il descendu ?» demanda l'agent. Quand madame a crié instinctivement, j'ai tourné la tête, il n'était plus là. Mais je l'ai aperçu sur le trottoir, qui courait dans la direction du boulevard. Un grand pardessus noir lui descendait jusqu'au talon. Son chapeau de feutre marron était enfoncé jusqu'aux oreilles. L'autobus s'était arrêté. L'agent s'élançait déjà dans la direction indiquée. 10 autres voyageurs sautèrent de l'autobus derrière lui. Toute cette troupe courait, bousculant tout sur son passage et entraînant dans son sillage tous les badauds. Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? La poupée sanglante ! La poupée sanglante ! Et l'on courait. Après quelques tribulations, hésitations, puis reprise éperdue de la course provoquée par quelques flâneurs qui, après s'être renseignés sur la cause de tout cet émoi, affirmaient soudain l'avoir vu passer, et toute la troupe arriva devant le musée Fralin, dont la porte était grande ouverte sur une voûte plongée dans une demi-obscurité. Qui ne connaît le musée Fralin ? Il a été l'étonnement de notre enfance et la joie de notre âge mûr. Avec le tombeau de l'empereur, le Panthéon et la tour Eiffel, il constitue pour les touristes de la province et de l'étranger une de ces rares étapes où l'on revient chez soi planter ses choux avec l'orgueilleuse certitude de ne rien ignorer des merveilles de la capitale du monde moderne. La porte de fer qui s'ouvrait sur cet antre mystérieux, où l'art léger d'une habile statuaire semble avoir ressuscité en des figures auxquelles il ne manque que la parole, les gestes les plus fameux de l'histoire, étaient entr'ouvertes. « Mais il est peut-être entré là ?» dit une voix. « Dame, fit une autre, un automate, ça ne peut pas être mieux caché qu'au milieu des poupées de cire. » Cette phrase était foudroyante de logique. Les 30 personnes qui l'avaient entendu, laissant courir les autres, pénétrèrent sous la voûte, ou plutôt s'y ruèrent, bousculant les employés, sautant par-dessus les tourniquets. Elles arrivèrent ainsi, essoufflées et un peu ahuries, dans les premières salles de ce musée de l'illusion. Un bon père de famille qui s'était ingénié, comme elle arrive souvent, à rester immobile sur une banquette, histoire d'intriguer les visiteurs et d'amuser sa petite famille aux aguets, non loin de là, s'était levé tout à coup, comme détendu par un ressort, passa là peut-être le quart d'heure le plus désagréable de sa vie. Heureusement pour lui, qui n'était pas muet, comme il protestait avec des cris épouvantés contre l'affreux traitement qu'on lui faisait subir, quelqu'un fit observer que la poupée ne parlait pas, ce qui le sauva d'un dépeçage en règle. Mais on n'en rendit pas moins fort endommagé à ses enfants en larmes. Il quitta l'établissement en jurant de ne plus remettre les pieds, et il reprit le soir même le train pour Angoulême. Malgré les efforts des employés, le groupe envahisseur continuait sa folle inspection, secouant les mannequins n'en plus laisser que la carcasse. Nous n'insisterons pas sur cette déplorable expédition, qui ne fut qu'un incident du reste dans le tumulte général qui gagnait la capitale. Rappelons seulement que, dans les caveaux où sont exposées quelques scènes de la Révolution, des personnages historiques qui avaient le tort d'être habillés à peu près comme l'était Gabriel quand il était apparu pour la première fois dans les boutiques de la rue de Saint-Sacrement, costumes qui avaient été complètement décrits par les journaux, furent réduits en miettes par ces nouveaux iconoclastes. Qu'auraient-ils laissé ces sauvages de tant de tableaux charmants et familiers qui font la joie de nos dimanches, si la police n'était enfin intervenue. Dehors, c'étaient les messieurs en par-dessus noir et au chapeau marron qui couraient le risque du martyre. Que de scènes grotesques qui faillirent tourner au tragique. Le geste un peu bizarre de la personne la plus inoffensive donnait le signal de l'assaut. Enfin, quand on ne faisait pas de geste du tout, on s'exposait à être déchiré. Rappelez-vous, un assoupissement pouvait vous être fatal. Un monsieur qui s'était endormi dans un tramway et qui avait le malheur de ne pas ronfler était soudain secoué comme un panier par les voyageurs en délire, qui lui criaient « Mais parlez, parlez !»« Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» suppliait le pauvre homme au comble de l'épouvante. « Oh, rien, cela suffit !» Tout de même, il était dangereux d'avoir, comme on dit, un sommeil d'enfant. Les jours suivants, l'affaire des piqûres prit des proportions fantastiques. Il y eut 10, 20, 30, 50 piquets entre 11 heures du matin et 7 heures du soir, car l'événement se passait généralement dans les grands magasins à l'heure de la pleine vente, quand la foule se presse devant les occasions. Cela devenait une maladie, une épidémie. Des femmes criaient qu'elles étaient piquées quand elles ne l'étaient pas. Mais elles avaient cru l'être, ce qui était autrement terrible, car cela ouvrait la porte à une suggestion générale qui rappelait dans le moderne les suggestions de Saint-Médard et les fanatiques de la Fontaine des Innocents. « Oh, voilà, c'est !» s'écria le préfet de police, qui était un homme d'une intelligence remarquable. « Il faut en finir !» Et voilà en effet comment on en finit, ou à peu près. Comme il était impossible d'arrêter le ou les piqueurs, on arrêta les piquets. Nous avons eu l'occasion de parler d'un monsieur Thibault, petit rentier des Batignolles, qui avait causé une sorte de scandale dans une brasserie des Grands Boulevards en déclarant que la poupée sanglante n'était qu'une invention du gouvernement destinée à détourner les esprits de problèmes autrement graves. Or, il arriva que ce monsieur Thibault, qui, bien qu'habitant les Batignolles, venait tous les jours prendre son apéritif sur le boulevard, monsieur Thibault disait volontiers « Je suis le dernier boulevardier ». Il arriva, disons-nous, que ce monsieur Thibault, en passant devant un grand magasin dont les trottoirs étaient particulièrement encombrés par une clientèle féminine, alléché par un solde de bas de soie, s'arrêta quelques secondes pour contempler un spectacle qui, peut-être eut-il tort de le dire trop haut, ne manquait point d'un certain piquant. Oh, il fut immédiatement puni de cette innocente critique à l'adresse de la coquetterie de ces dames, au milieu desquelles il s'était glissé avec la bonne humeur d'un vieux Parisien, nullement ennemi de la gaudriole, par la sensation fort désagréable d'une aiguille qui lui entrait assez profondément dans la partie la plus charnue de son individu. Il poussa un cri en portant la main à la place attaquée, se retourna d'un bloc pour surprendre son lâche agresseur n'eut que le temps de voir disparaître au coin de la rue une forme vague et bondissante, et appela immédiatement à son aide. « À moi, je suis piqué, je suis piqué !» Aussitôt, des sergents de ville accoururent, qui l'arrêtèrent. « Oui, oui, mon vieux, tu l'es piqué. Oh, tu l'es plus que tu le crois, mais calme-toi, nous allons te soigner. » D'abord, il ne comprit point ce qu'on lui voulait. Il ne commença à se faire une idée approximative de son aventure qu'au poste, où il fut projeté, en attendant l'arrivée de monsieur le commissaire dans une petite pièce sombre et puante, déjà occupée par quelques clients d'occasion. « Mais, messieurs les agents, je ne demande qu'à être examiné !» protesta-t-il éperdu. « Je souffre, je vous jure que j'ai été piqué !»« Ah, tu as été piqué !» grogna l'un de ces dévoués représentants de la force publique, en avançant sur le pauvre homme un visage de guerrier énergique, fortement moustachu. « Ose dire encore que tu as été piqué !» « Oui, monsieur l'agent, j'ai été piqué. »« Eh bien, et ça ? Est-ce que ça pique ?» Et le représentant de la force publique envoya rouler sur le banc d'une solide caresse de son poing entre les deux yeux monsieur Thibault, petit rentier des Batignolles. Sur quoi la porte se referma. Une demi-heure plus tard, elle se rouvrait. « L'homme qui a été piqué !» appela l'agent. Monsieur Thibault, à peine remis de son émotion, se présenta. L'agent le conduisit devant monsieur le commissaire. Celui-ci paraissait de la plus méchante humeur du monde. Il jeta sur le prisonnier un regard à la Fouquier-Tinville. « Vos noms, prénoms et qualités ?»« Aurélien Thibault, rentier au Batignolles. » « Il paraît, monsieur, si j'en crois le rapport de mon brigadier, que vous auriez été piqué. »« Erreur, monsieur le commissaire, erreur. J'ai pu penser, j'ai pu croire, mais maintenant j'ai pu vous jurer. Non, 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 je vous jure que je n'ai pas été piqué. » Alors le commissaire se leva. Il n'avait plus son regard à la Fouquier-Tinville. Le plus aimable sourire s'épanouissait sur sa lèvre en fleurs. « Oh, je crois, mon cher monsieur Aurélien, que vous avez compris. »« Oh oui, monsieur le commissaire, j'ai compris. »« Vous êtes un homme remarquablement intelligent, mon cher monsieur Aurélien. »« Permettez-moi de vous serrer la main. »« Oh, trop aimable, monsieur le commissaire. » Et maintenant, je puis me retirer. Ah non, monsieur Aurélien, non. Nous vous garderons encore 24 heures. Un homme intelligent comme vous comprendra que pour que les autres comprennent, eux aussi, nous sommes dans la nécessité de vous garder encore 24 heures. Quand les autres sauront qu'il en coûte 24 heures de boîte pour avoir été piqué ou pour croire que l'on a été piqué, personne ne le saura plus. Monsieur Thibault ne protesta point. Il ne croyait plus à la justice de son pays. Il ne croyait plus à rien de ce qui fait la force morale des petits rentiers des Batignolles. Il ne croyait plus qu'à la poupée. Comme nous l'avons fait prévoir, cette méthode eut d'excellents résultats et déjà M. Bessières, bien que l'initiative en eût été prise par son collègue de la préfecture, était le premier à s'en réjouir quand il vit apparaître dans ses bureaux de la rue des Saussets un homme dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis le jour où il l'avait envoyé en mission. « Ah, vous voilà, l'émissaire !» s'écria-t-il sur un ton assez joyeux. Car ce jour-là, il n'avait pas eu de piqué du tout. « Eh bien, qu'êtes-vous devenu ? Je croyais que la poupée sanglante vous avait mangé. » « La poupée sanglante ne mange pas, » répondit M. Lebouc, sur un ton si grave que le directeur de la Sûreté Générale en perdit aussitôt le sourire. Du reste, je ne reviens pas ici pour vous entretenir de la poupée. Tant mieux, M. Lebouc, tant mieux. Moins on en parlera, mieux cela vaudra. Déjà, elle ne pique plus personne. Dans 15 jours, il n'en sera plus question, une autre affaire éclatera, et celle-ci sera enterrée. Et je vous prie de croire que ce n'est pas moi qui la regretterai. Monsieur le directeur, l'affaire que je vous apporte est autrement grave que celle que nous avions imaginée. Mais je n'ai rien imaginé du tout, moi. Allez dire cela à Monsieur Gassier et à ces messieurs de la place Vendôme. Monsieur le directeur, si je suis resté à Corbières tous ces temps-ci... À Corbières, mais on ne vous y a pas vu à Corbières. J'ai demandé de vos nouvelles à tous mes agents, à mes inspecteurs. Eh bien, monsieur, j'y étais. Et si j'y étais, alors que la poupée n'y était plus... Soyez persuadé qu'il y avait une puissante raison à cela. Qu'est-ce que vous allez encore me raconter ? Une chose épouvantable. Épouvantable ? Épouvantable. Nous sommes bien seuls ? Monsieur Lebouc se leva, s'assura de la fermeture des portes, revint à son chef et lui parla bas à l'oreille pendant au moins 5 minutes. Monsieur le directeur d'abord jura, puis injuria, et puis se tut et écouta. Et puis croisa les bras sur sa poitrine haletante et enfin éclata. « Mais c'est pas possible! C'est pas possible !» Le bouc un peu pâle se taisait maintenant. M. Bessières lui saisit les mains, les lui broyait. « Écoutez, commissaire, vous n'êtes pas un imbécile. Eh bien, il faut vous taire et ne rien faire, absolument rien, sans que je vous aie dit. Allez, je cours tout de suite chez le ministre, attendez-moi ici. » Un quart d'heure plus tard, M. Bessières était de retour dans son cabinet. Il en était parti congestionné, la figure prête à éclater et tel un boulet rouge. Il y revint plus pâle que M. Lebouc. « Savez-vous ce que le ministre m'a dit, l'émissaire ? Il m'a dit que vous étiez plus dangereux que la poupée. Et maintenant, les foutez le camp. Et surtout, silence, nom de Dieu !» Le lendemain matin, on lisait ces quelques mots en première page, sous une grosse manchette de l'époque. L'affaire de la poupée sanglante, qui a déjà fait couler tant d'encre et tant de sang, va entrer dans une phase nouvelle et prendre une ampleur effroyable, si on a le courage d'aller jusqu'au bout. Ceci était signé des 3 X que l'on avait déjà remarqué au bas de l'article qui avait fait éclater l'affaire à son début.